Hier, c'était la journée nationale du déménagement, comme tous les 1er juillet. Et ben, il y a des gens qui améliorent leur situation. Il y en a d'autres, par contre, qui trouvent ça plus difficile. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, disait hier avoir recensé au moins 333 ménages locataires au Québec, dont 171 juste pour la ville de Montréal, qui n'avaient pas signé de nouveaux bails au Québec et qui étaient toujours à la recherche d'un toit. Dans les dernières semaine, d'ailleurs, l'Office municipal d'habitation de Montréal a reçu des centaines de demandes d'aide pour justement loger des gens qui devaient quitter donc le 1er juillet puis qui n'avaient pas d'endroit où aller. Robert Baudry est membre du comité exécutif, les responsables du développement économique et commercial de l'habitation et du design à Montréal. Bonjour, M. Baudry.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, combien de gens sont restés sur le carreau hier à la suite des déménagements, selon le dernier recensement?
Ben, en fait, personne n'est resté sur le carreau parce qu'on a pris en charge les personnes qui n'avaient pas de logement, on les a hébergées directement. On a entreposé leurs biens aussi. Par contre, dans les statistiques que vous avez nommées au début, on est rendu à peu près à 182 ménages, pas à peu près, très clairement, 182 ouais. ménages qui n'ont toujours pas trouvé de logement, qui sont hébergés temporairement ou qui ont pu prolonger un peu leur bail actuel. Donc, c'est vraiment une situation assez critique pour ces ménages.
OK, mais on les héberge où? Ces gens-là?
En fait, la Ville de Montréal, on l'a annoncé assez rapidement. Nous, ce qu'on va faire, c'est on veut laisser personne sur le carreau, justement, personne à la rue. Donc, avec l'Office d'habitation de Montréal, on a des ententes avec des chambres d'hôtel où on va vraiment reloger les gens. On a des entrepôts aussi pour le matériel. On fait de la gestion animalière aussi pour ceux qui auraient des animaux.
Ouais.
Mais aussi, on peut faire des ententes avec les propriétaires actuels pour des prolongations, okay. Le cas échéant, si c'est possible.
Bon, les gens qu'on envoie à l'hôtel, par exemple, qui paient pour ça?
Ah, c'est en fait en partenariat avec le gouvernement du Québec. La Ville de Montréal est financée par le gouvernement du Québec. C'est pour ça qu'on avait fait des demandes de 5 millions de dollars là, au début pendant la crise. L'objectif, là, c'est de pouvoir soutenir ces gens-là.
Mais les gens ne paient rien du tout, c'est ça?
Non, absolument.
OK. Mais alors que normalement, s'ils avaient un appartement, il y aurait eu un loyer. Alors comment se fait-il qu'on le...
Parce qu'on est en situation actuellement de crise. Le taux d'inoccupation est à ouais. 1,5%, ce qui fait en sorte que c'est débalancé parce que l'offre et la demande est équilibrée à partir du 3% de taux d'inoccupation.
Ouais.
À 1,5%, c'est très, très difficile pour des gens de trouver un loyer en fonction de leurs revenus. Donc, des ménages, des familles avec enfants qui se retrouvent en grande difficulté, on ne peut pas se permettre de les laisser à la rue, donc on les héberge de façon d'urgence.
Pendant combien de temps on peut les héberger de cette façon-là?
L'année dernière, parce que quand ils sont hébergés, on continue la recherche active de logement, on travaille avec nos partenaires du réseau. L'année dernière, on a eu des ménages hébergés jusqu'au mois d'octobre.
Ah oui, hein?
Oui.
Mon Dieu, mais évidemment, on ne veut pas les envoyer dans des logements qui sont insalubres et on peut s'imaginer que à la fin, là, ce qui reste dans le 1,5%, ça ne doit pas être toujours être les plus beaux logements, là?
Non, c'est pour ça qu'on fait des partenariats aussi avec les groupes de logements sociaux. Souvent, il y a des logements abordables sociaux qui se libèrent. On travaille avec des partenaires aussi, comme le gouvernement du Québec, avec les programmes de supplément au loyer, qui est une subvention qui permet à des ménages à faible revenu de pouvoir avoir accès à un logement qu'ils ne pourraient pas se permettre.
Okay. Donc,
on subventionne le logement, qui permet de trouver des logements à ces ménages.
Bon, vous l'avez dit tantôt, le taux d'inoccupation se situe à 1,5% à Montréal. C'est le plus bas taux depuis 20 ans. On est loin de l'équilibre, là. Et puis, évidemment, il y a deux choses. Les logements sont extrêmement rares, difficiles à trouver, mais ça doit avoir aussi une pression à la hausse sur les loyers, là, quand il y a une rareté de cette façon-là, n'est-ce pas?
Absolument. Des loyers qui étaient déjà très, très hauts aussi. Je veux dire, il y a plein de phénomènes dans le passé là, qui ont exacerbé la hausse des loyers. On pense par exemple au phénomène Airbnb à Montréal pour la location touristique qui a mis une pression à la hausse sur les loyers. Donc, effectivement, ça devient difficile et surtout pour certaines typologies de logements. Je pense aux grands logements et les familles avec deux enfants ont besoin de trois chambres à coucher.
Oui.
C'est très, très, très difficile d'en trouver à Montréal actuellement. Donc, c'est quoi la solution? C'est de construire plus de logements abordables, plus de logements sociaux.
Mais parce que quand on regarde les statistiques à chaque année de construction de logements, on se rend compte qu'il n'y en a jamais eu autant en construction des appartements. Et pourtant, il y a un manque flagrant. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de fournir à la demande?
parce qu'ils sortent du marché locatif et ils s'en vont dans un marché souvent spéculatif. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est qu'ils sont beaucoup trop chers par rapport à ce que les gens peuvent se permettre.
Okay.
La troisième raison, c'est justement au niveau du logement social, il n'y a pas un équilibre. Actuellement, notre parc de logement social est à 11 %. C'est 22 % du parc en France, par exemple. Donc, on est très, très loin d'avoir une réelle mixité. Et là, ça fait 2 ans que le gouvernement du Québec n'a pas investi de nouvelles unités en logement social. L'entente fédérale, provinciale sur la stratégie nationale du logement n'est toujours pas signée. Donc, à un moment donné, là, il manque d'investissement. Il faut investir en logement social, surtout en période de crise actuelle.
Ouais. Puis, j'ai lu quelque part aussi que la pression de l'immigration, parce qu'on a accueilli beaucoup d'immigrants au fil des dernières années, entre autres, avec tout ce qui s'est passé avec l'immigration qui provenait d'Haïti, des gens qui remontaient des États-Unis, qui traversaient la frontière, tout ça. Ça aussi, ça contribue à mettre une pression sur les immeubles locatifs. Donc, il y en a de moins en moins, là.
Ben, je vous dirais qu'au-delà des réfugiés, c'est peut-être plutôt les acheteurs étrangers, donc acheteurs spéculateurs,
ah oui, hein?
Qui est un phénomène d'ailleurs, on avait demandé au gouvernement du Québec le droit là, d'imposer une taxe sur les acheteurs étrangers.
Mm-hmm.
Ça fait également une très forte pression là, des logements justement du parc locatif qui sont achetés par des personnes de l'extérieur dans un but de spéculation ou de location courte durée. Parce que les gens qui se retrouvent ici sous forme de réfugiés, souvent, sont dans un réseau d'aide, sont en grande famille. Ils viennent à être supportés. C'est pas nécessairement eux autres qui changent la donne. Là. Je dirais là, que le marché spéculatif fait beaucoup plus de dommages.
OK. Un peu comme ce qui s'est passé, entre autres, à Vancouver et aussi à Toronto, c'est-à-dire beaucoup d'acheteurs qui viennent d'Asie, entre autres de Chine, des gens qui achètent des appartements, qui achètent des immeubles, qui les occupent pas.
Ça fait un impact.
Ouais.
Et vous l'avez bien dit, ça a commencé à Vancouver, c'est arrivé à Toronto, puis là, ça s'en vient vers Montréal. Donc, il faut qu'on se donne des outils, justement, pour éviter de stopper cette situation-là.
Monsieur Baudry, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, M. Lacroix.
Au revoir. Robert Baudry est membre du comité exécutif responsable du développement économique de la Ville de Montréal. Évidemment, au lendemain de ce 1er juillet, quel est le portrait de la situation pour les propriétaires de l'autre bout du spectre, si on veut? Martin Messier est président du regroupement des propriétaires d'habitations locatives. Bonjour, M. Messier.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, avec la COVID, ce qu'on a cru comprendre, en fait, qu'il y a un phénomène qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont carrément refusé de quitter les logements le 1er juillet. Est-ce que vous en avez beaucoup parmi vos membres?
Ben, on en a eu plusieurs qui nous ont indiqué leur intention de demeurer dans le logement. Finalement, encore hier, avec beaucoup d'explications, de négociations, également la collaboration de plusieurs municipalités au Québec, on a réussi à résorber la plupart des situations. Donc, ça s'est quand même bien déroulé, mais c'était beaucoup de travail, beaucoup d'explications à donner.
Ouais, quels sont vos recours? Parce que, évidemment, à la régie du logement, on avait, d'une part, arrêté les audiences qui ont repris, je pense, c'est le 1er juin dernier, mais il y avait aussi les avis d'expulsion là, qui étaient suspendus. Est-ce que ça a eu un impact?
Ça a eu un impact. Effectivement, les avis d'expulsion sont toujours suspendus, en fait, jusqu'au 6 juillet pour les décisions rendues avant le mois de mars et jusqu'au 20 juillet pour les décisions rendues après mars. Donc oui, il y a plusieurs propriétaires qui sont dans l'embarras avec des locataires qui sont l'objet d'une ordonnance d'expulsion, mais incapables de le faire exécuter. Pour répondre à votre question, pour les occupants sans droit, en fait, le recours, c'est une demande à la régie du logement, puisque une des obligations du bail, c'est de le libérer et de le laisser dans l'état où le locataire l'a reçu. Quand cette obligation n'est pas exécutée, le propriétaire peut saisir le tribunal et demander l'expulsion de l'occupant sans droit à ce moment-là.
Oui, mais encore là, il y a des délais, évidemment, qui sont importants. Puis vous autres, les logements sont déjà loués par la suite. Il y a une espèce de chaîne là, qui s'engage. Si la personne, le 1er juillet, décide de rester dans un appartement que vous avez déjà loué à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre-là avait un appartement auparavant qui a quitté hier, puis et là, ça fait une chaîne de cette façon-là, n'est-ce pas?
Effectivement, il y a vraiment un effet domino qui est tout à fait détestable. Et pour le propriétaire, je vous dirais que c'est une situation absolument atroce parce que il se retrouve, comme c'était le cas pour plusieurs hier, avec des ménageurs qui se présentent physiquement, sont sur les lieux, incapables d'entrer parce que le locataire refuse de quitter. Le nouveau locataire est évidemment au désarroi parce que il commence sa nouvelle vie et à ce moment-là, toutes ces choses sont prises dans le camion. Et donc, temporairement, on doit trouver un endroit pour les choses, trouver un endroit, un hôtel pour le locataire. le temps que la procédure devant le tribunal puisse être exécutée.
Bon, vous attendiez à un 1er juillet chaotique. Est-ce que ça a été à la hauteur de ce à quoi vous vous attendiez ou si finalement on s'en tire relativement bien à la suite d'hier?
Relativement bien, je vous dirais. Finalement, je pense que les efforts de communication, les explications, le travail qui a été fait préalablement a vraiment contribué à faire en sorte que hier, somme toute, bien qu'il y ait des problèmes, somme toute, ça s'est bien déroulé.
Est-ce qu'il y a eu moins de déménagements que ce qui était prévu, en fait, que les années précédentes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à ce qu'on dit, là, qui auraient décidé de renouveler leur bail, leur beau, plutôt que de dire, ben écoutez, moi, je vais déménager, il y a la COVID en ce moment, je ne suis pas intéressé à faire ça, ça va amener un paquet de problèmes. Est-ce que la COVID a eu un impact sur le nombre de déménagements, à votre connaissance?
Plusieurs de nos membres nous ont indiqué que relativement aux événements, en fait, les locataires ont dit, ben écoutez, moi, je veux pas le mettre à magasiner, que ce soit de façon virtuelle ou physique. Et c'était la même chose pour plusieurs propriétaires qui ne voulaient pas se retrouver pris à louer un logement de façon virtuelle. Donc, plusieurs ont décidé de changer d'idée, tant du côté du locataire que du propriétaire, puisque comme le bail est terminé, ça prend un nouveau bail. Il faut prendre une nouvelle entente. Et oui, il y a eu plusieurs de ces cas-là.
On parlait il y a un instant avec M. Baudry du taux d'inoccupation qui est à 1,5% seulement. C'est très, très peu, là. C'est le plus bas taux depuis une vingtaine d'années, surtout à Montréal. Quel impact ça a sur vous, les propriétaires, ça? Est-ce que ça vous incite, par exemple, à lancer d'autres projets de construction pour des immeubles à logement?
En fait, oui, pour les projets de construction, mais dans des gammes de prix, évidemment, puisque ce sont des immeubles neufs et qu'également, on a la possibilité, parce qu'il n'y a pas de droit au maintien dans les lieux, c'est un immeuble neuf, de fixer le loyer, donc dans une gamme de prix qui est peut-être différente du loyer moyen qu'on retrouve actuellement à Montréal. Un des enjeux qui demeure et qui va demeurer, c'est tout ce système, ce contrôle des prix des loyers qui est tellement exigeant au Québec, que les propriétaires actuels, ceux qui ont le parc locatif qui date des années 70, ont de la difficulté à l'entretenir parce que le taux de rendement sur des travaux majeurs est de plus de 30 ans. Donc, si je refais toit, fenêtre, ouais, avant de réussir à l'amortir, c'est très long. Donc, on a plusieurs propriétaires qui se retrouvent dans une impasse pour les rénovations. Et oui, on a des immeubles qui sont rentables, mais si on l'habite nous-mêmes, donc ça occasionne des reprises de possession de logements, clairement.
Monsieur Messier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je la crois, merci.
Au revoir. Martin Messier est président du regroupement des propriétaires d'habitations locatives. Somme toute, ça s'est bien passé, en fait, mieux passé que ce à quoi on s'attendait, mais il reste quand même 182 familles qui sont sans logement ce matin à Montréal.